retour en mode discussion d'affaires sur le podcast Hypercroissance et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Ça va extrêmement bien, Antoine. Pleinement ressourcé du fameux week-end de 3 jours. Je pense que l'équipe de gestion ici va m'avoir trouvé fatigant. J'ai tellement mis de points de discussion, puis d'idées, puis de mouvements stratégiques dans notre petit outil qui est ClickUp, que ça leur envoie une petite notice malheureusement à chaque fois. Mais j'avais peur de rentrer le mardi matin aujourd'hui au bureau, puis que les gens me disent, voilà, t'as été trop actif ce week-end. Mais beaucoup de temps pour réfléchir, puis ça nous donne des bonnes idées à ce moment-là. Et toi, Antoine, comment vas-tu aujourd'hui?
Ah, ça va bien. Comme tu le vois un peu en ce moment, je suis à l'extérieur, au beau temps, au soleil. C'est une des premières fois que je fais un podcast à l'extérieur, donc vous m'excuserez si un petit peu, si vous entendez un petit peu le vent, mais on a fait des tests et je pense que c'était quand même assez bon comme son. Mais oui, la vie est belle, je te dirais. Il y a des bonnes nouvelles également de notre côté. Je trouve que globalement, les choses semblent bien se dérouler. On parlait cette année comme des gros enjeux économiques problématiques. Force est d'admettre qu'il peut y en avoir, mais tout de même, je trouve qu'il y a de la belle croissance qui se crée autant au niveau de nos clients, de notre côté, que ce que je vois un petit peu dans mon entourage. Donc, fin du premier trimestre, ça s'est très, très bien déroulé de notre côté. J'ai été agréablement surpris du trimestre qu'on vient d'avoir. Et je pense que ça peut être bon des fois, hein, de faire un... Je sais pas comment vous fonctionnez, vous, à l'interne, Jonathan, mais de faire un peu une rétrospection sur le trimestre en cours. Nous, on travaille beaucoup comme ça dans notre équipe. Faire des rétrospections du trimestre en cours, parler des objectifs qu'on a pour le prochain trimestre à venir. Et là, on sort tout juste de ça. On enregistre le podcast 11 avril 2023. Donc, je regardais, je lisais, j'étais sensiblement heureux de tout ce que j'avais vécu de mon côté.
On est sur le même principe, Antoine, de notre côté. 3 sprints de 3 mois qu'on appelle des rocks sous la méthodologie Scaling Up Gazelle. Et entre chacun de ces sprints-là de 3 mois, on prend un mois pour vraiment se poser, regarder ce qui était complété, célébrer un petit peu aussi parce qu'il faut célébrer nos victoires. Puis après ça, on replanifie pour le prochain trimestre. Donc, c'est sous le même principe. Donc, le but, c'est d'avancer, d'être le plus focus. Puis après ça, de s'assurer que chaque équipe voient vraiment ce qu'ils doivent faire pour le prochain trimestre et de contribuer dans leur quotidien.
Donc, c'est intéressant. Il y a un mois que vous prenez entre chacun de ces trimestres-là. Donc, ça vous amène à 3 trimestres au lieu de 4, si je comprends bien.
Effectivement, dans le passé, on était vraiment 4 trimestres. La problématique qu'on avait, c'est qu'on courait tellement à la fin du trimestre pour voir où est-ce qu'on était rendu, puis tout de suite avoir une prévision de sur quoi on devrait focusser sur le prochain trimestre, qui fait qu'on faisait pas nécessairement bien les choses. Donc, on a décidé d'un peu ralentir le rythme et d'être certain vraiment là, de bien terminer ce qu'on avait à faire pour le trimestre précédent. Puis de bien planifier pour le trimestre suivant. Souvent, ça va arriver qu'on va aviser les équipes des focus pour le prochain trimestre 2 semaines à l'avance de ce trimestre-là. Donc, ça les permet de prendre un peu d'avance là, et d'avoir un peu plus que 3 mois en réalité pour travailler puis faire avancer les rocks qu'on a de notre côté. Là.
Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je pense que je vais analyser cette approche-là parce qu'effectivement, c'est souvent ce qui arrive, c'est que tu finis un trimestre et rapidement t'enchaînes sur le deuxième sans nécessairement prendre le temps de bien regarder tout ce qui s'est déroulé parce que t'as pas beaucoup de temps entre les deux, là.
Effectivement. Fait que ça nous permet de souffler, ça nous permet de focusser. Ça donne un petit peu de marge de manœuvre aux gens pour terminer ce qu'ils ont peut-être pas nécessairement bien terminé en qualité puis en efficacité, là. Donc voilà.
Fantastique. Donc toi, Jonathan, il y a un sujet que tu voulais parler avec moi aujourd'hui, je crois bien, qui pourrait peut-être intéresser notre audience.
Absolument. Je serais très curieux, Antoine, que tu puisses nous parler un petit peu de la réalité des derniers mois de ton côté. Tu avais un grand projet d'aller habiter sur un autre fuseau horaire en Europe. L'entreprise est principalement ici à Montréal, au Québec. Et on avait eu beaucoup de discussions dans les derniers trimestres de comment ça pouvait être à ce moment-là de gérer une entreprise à distance sur un fuseau horaire différent. Je sais que tu avais une certaine vision de comment ça pouvait se passer maintenant. The boots hit the ground, donc tu le vis au quotidien aujourd'hui. Fait que je serais vraiment curieux, Antoine, si tu pourrais nous partager aujourd'hui comment tu voyais ça avant vraiment de t'en aller en Europe pour vivre à temps plein là-bas. Et c'est quoi maintenant la réalité que tu vois aujourd'hui, ou plutôt l'apprentissage que tu as eu des dernières semaines, des derniers mois depuis ton arrivée à temps plein sur un fuseau horaire qui est quand même différent parce que ça doit être quand même challengeant par rapport à la disponibilité pour faire des meetings, mais il doit avoir quand même des bons côtés où tu as peut-être des meilleures zones de focus au niveau de temps que tu ne te fais pas déranger. Fait qu'Antoine, je suis curieux, c'était quoi ta perception avant d'aller là-bas? Puis maintenant, aujourd'hui, un peu plus, c'est quoi la réalité? Là?
Mmh. Ben écoute, c'est vrai que c'est un bon sujet pour notre audience aujourd'hui parce que je sais qu'il y a même beaucoup de gens que j'ai reçus sur Hypercroissance qui pensent un peu faire ça, aller partir pendant un trimestre ou deux trimestres pendant l'année, aller travailler dans des endroits qui peut-être fait un peu plus chaud. Bref, je sais que c'est des idées qui peuvent jouer dans la tête des gens qui viennent sur le podcast, donc j'assume qu'il y a également des gens qui nous écoutent qui peuvent se poser la question. Ben la première chose, je pense qui est intéressant aussi dans mon cas, c'est qu'à la base, la fondation de l'organisation fait en sorte qu'on est davantage dans un contexte de travail à distance en premier lieu. On appelle ça en anglais « remote first ». On n'était pas bâti comme ça au tout départ, mais la COVID a fait accélérer tout ça. Nos embauches pendant la COVID et après la COVID ont été reliées à cette vision-là. Donc, nous, à la base, notre organisation, elle est davantage distribuée que tous les gens au bureau. C'est-à-dire qu'on a des bureaux à Montréal, on a des bureaux à Québec, on peut également travailler de certains endroits en Europe, mais à la base, les gens travaillent surtout de chez eux. On a peut-être un taux de présence au bureau qui va varier entre 20 et 30 dans les très, très bonnes journées. OK? Donc ça, ça facilite le tout parce qu'on a déjà une culture comme ça. C'est pas comme s'il y avait 40, 50 personnes au bureau et que du jour au lendemain, le président allait travailler de l'Europe. Ça, ça aurait peut-être été un petit peu bizarre ici et ça aurait peut-être pas fonctionné non plus. Mais dans un contexte qu'on était déjà une entreprise distribuée, où est-ce que mes rencontres avec mon comité de gestion se font à distance, mes rencontres avec mes collègues se font à distance, les présentations trimestrielles se font à distance, il y avait pas beaucoup de changements ici. Le gros changement qui venait s'opérer, c'était surtout au niveau des heures de travail puis la disponibilité de tous et chacun. Un des trucs que j'avais beaucoup analysé avant de déménager ici, c'est de voir vraiment les avantages qu'il y a d'avoir 6 heures avant tout le monde. Parce que présentement, j'habite à Barcelone, donc le fuseau horaire, c'est 6 heures d'avance sur les gens de Montréal, les gens du Canada, de l'Est du Canada. L'inverse aurait été peut-être plus complexe. Et je m'explique, je suis allé en Californie, je pense à peu près 5 à 10 jours, je me rappelle plus exactement, mais c'est au mois de septembre. Bref, je travaillais de la Californie et là, je m'étais rendu compte que le fuseau horaire inversé, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et que tu commences à travailler, disons, à 7 heures, il est déjà 10 heures pour les gens à l'heure de l'Est, il est déjà 16 heures pour les gens d'Europe. Ça, je trouvais ça très complexe. Ça, je trouvais ça très complexe parce que j'avais l'impression de tout le temps être en retard, de tout le temps essayer de courir pour essayer de rattraper un peu le tout. Et ça, j'avais un petit peu moins aimé ça. Bien entendu, j'imagine qu'avec le temps, je m'y adapterais et tous les gens qui travaillent sur la côte ouest auraient sûrement des avantages à expliquer tout ça, mais j'avais trouvé ça très difficile. Par contre, de l'autre côté, travailler de l'Europe, je l'avais déjà fait dans le passé et avoir ce 6 heures d'avance sur tout le monde est assez exceptionnel, Jonathan. Est assez exceptionnel parce que, ben, de toute façon, moi, j'ai pris l'habitude de faire en sorte qu'en Europe, aucune rencontre le matin et même aucune rencontre avant 14 heures. Ce qui fait en sorte que si, disons, je commence à travailler un petit peu plus tard présentement en Europe. Je commence à travailler vers environ 10 heures parce que je termine plus tard aussi pour garder quand même du temps de qualité avec mes équipes au Canada. Donc, disons, je commence à travailler à 10 heures le matin, heure d'Europe, mais de 10 heures le matin à 2 heures Europe encore une fois, j'ai pas de rencontre. Donc, je suis 100% ce qu'on pourrait appeler dans du, moi j'appelle ça du one thing work, du deep work, donc du travail pour faire avancer l'organisation, du contenu pour les différents podcasts que j'anime, du travail qui peut être orienté un petit peu plus au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc, avoir un 4 à 5 heures qui m'appartient par jour pour travailler tout ça, c'est quasiment quelque chose que jamais je n'aurais pu penser parce que souvent on commence la journée et même si on se dit que personne nous dérange, qu'on a du temps bloqué dans nos agendas, qu'on travaille sur nos projets, on est des humains, il y a tout le temps un certain point, à un moment donné, des dérangements qui peuvent survenir. Donc ça, je trouve ça totalement formidable. Par la suite, qu'est-ce qui se déroule? Ben, ça change un petit peu mes horaires. C'est-à-dire que je commence à travailler 10 heures, je termine environ vers entre 20 et 21 heures, des fois 21 heures, 21 heures 15, mais habituellement, je termine à ces heures-là. Donc, ça me donne quand même du temps de qualité jusqu'à 2 heures, jusqu'à entre 2 et 3 heures pour les gens au Canada. Donc, on est capable d'avoir des rencontres avec eux tout le matin et quand même une petite partie de l'après-midi. Donc, au final, si on analyse, il y a à peu près peut-être juste 2 à 3 heures où est-ce que je ne suis plus disponible comme je pouvais l'être avant, c'est-à-dire de 2 à 5 heures, heure de l'Est. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais j'imagine que vous êtes capable de voir le tout. Donc, au final, en toute honnêteté, je ne veux pas retourner à un horaire de l'Est. Je ne veux pas retourner à un horaire de l'Est du Canada parce que c'est inestimable. Avoir autant de temps comme ça, c'est inestimable. Bien entendu, l'objectif de s'installer ici n'est pas uniquement personnel. Il y a un objectif d'affaires derrière qui est de bâtir une société beaucoup plus grande présentement en Europe. On a déjà quand même certains collègues de notre équipe qui travaillent en Europe. On est à peu près 8, mais l'objectif, c'est de bâtir beaucoup plus de vélocité ici. C'est un marché qui est plus gros que le marché qu'on va couvrir au Canada, surtout au Canada francophone, qui est à peu près de 7-8 millions de personnes. L'Europe francophone, c'est à peu près quasiment 70 millions de personnes. Donc, on veut avoir quelque chose de plus grand. Donc, peut-être qu'ultimement, l'horaire de l'Est que j'avais avant va se transformer un petit peu en horaire similaire en Europe si on atteint une plus grande vélocité en Europe qu'on en atteint une au Canada. Mais bon, j'ai quand même quelques années, à mon avis, avant de me rendre là. En toute honnêteté, les avantages sont beaucoup plus hauts que les inconvénients. Si bien entendu, vous êtes prêt à travailler un petit peu votre horaire, à changer quelques points. Moi, ça a été quelque chose que j'ai mis clair avec ma copine, c'est-à-dire que je vais terminer un petit peu plus tard et je vais commencer un petit peu plus tard le matin. Mais si vous mettez ça clair, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages.
Et à quel point, jusqu'à présent, tu es capable de préserver ta zone de temps personnelle? Parce qu'il y a toujours un petit meeting de plus qu'il faudrait faire, qui est l'heure de l'Est du Canada, qui, de ton côté, toi, c'est le soir, c'est ton temps de souper avec ta conjointe. À quel point tu réussis à préserver ce temps-là?
Ben, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, puis il peut avoir des urgences qui s'installent, un gros client qui veut travailler avec toi, ou est-ce qu'il va juste avoir une disponibilité à un certain moment, une urgence avec des opérations internes, ça peut arriver, mais jusqu'à maintenant, j'ai bloqué du temps dans mon agenda qui dit non disponible à partir de 20h, heure de l'Est, et personne ne peut vraiment booker de rencontres à ce moment-là. J'essaie de garder cette discipline-là. Comme tu l'as dit, ça fait pas tellement longtemps que je suis ici. On enregistre le podcast le 11 avril 2023. Je suis arrivé ici officiellement le 3 février 2023. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 mois. Peut-être que le temps va me rattraper. Peut-être que les choses vont devenir plus complexes plus les mois et les années avancent. Mais je crois que le plus longtemps que je suis capable de garder cet horaire-là, le plus longtemps je vais le garder. Parce que au moment où on se parle, comme je te l'ai dit, la colonne des plus, c'est considérablement plus élevé que la colonne des moins. Et je crois que n'importe quel entrepreneur qui serait dans ma situation pourra en témoigner. C'est-à-dire, avoir autant de temps pour toi, Jonathan, là, pense-y avec tous les projets que tu as avec Open Mind, avec d'autres projets également que tu as avec les contenus de tes podcasts. Imagine, tu as 3 à 5 heures selon l'horaire, bien entendu, que tu choisis. Qui t'appartient chaque jour? Qu'est-ce que t'en fais? Et là, c'est là que tu peux commencer à être très créatif.
Et je peux comprendre ce que tu dis là parce que souvent, ça m'arrive la fin de semaine de prendre un 2-3 heures, aller travailler dans un café ou travailler avec un petit café à la maison ou au chalet. Puis mon Dieu, que ce temps-là est tellement efficace au niveau stratégique que si j'avais la capacité d'avoir ce temps-là chaque jour, je suis convaincu que ça permettrait d'aller plus vite. Par contre, ce temps-là, Antoine, de ton côté que tu as, peut être peut-être mis à risque éventuellement, comme tu dis, au fur et à mesure que tu vas étendre tes opérations en Europe.
Bien sûr.
Ça l'amènerait à la réflexion de même de se dire ici, en tant qu'entrepreneur au Québec, est-ce qu'on devrait imposer dans nos organisations un peu le concept de safe cockpit, de dire le matin ou dans la journée, peu importe, d'avoir une plage horaire où ce qu'on peut pas avoir de rencontre, puis qu'on travaille seulement sur du travail focus, là, comme tu disais, du one-to-one, là, je pense que tu mentionnais. Mm-hmm. Là.
Ben ouais, exact. Puis je pense que c'est complexe. C'est complexe pour toutes les raisons qu'on connaît, les urgences qui peuvent s'intégrer, les grosses rencontres importantes qui peuvent s'intégrer à la dernière minute.
Mais le fuseau horaire aide à ce moment-là dans ton cas, toi.
Exact.
Là. C'est ça.
Le fuseau horaire, c'est ce qui fait toute la différence. S'il n'y avait pas le fuseau horaire, est-ce que j'y arriverais? Je ne m'étais pas posé la question, je n'avais jamais testé. Mais effectivement, dans le cas ici, le fuseau horaire aide vraiment. Et c'est là que le point qui est intéressant de dire que si c'était l'inverse, c'est-à-dire que si j'étais sur la côte ouest américaine ou la côte ouest canadienne avec 3 heures de moins, ou est-ce que là, c'est complètement l'inverse? C'est-à-dire que tu commences le matin et tu es un peu en retard, tu essaies de rattraper, et là, à 2 heures de l'après-midi, les gens sont un peu partis. Ben écoute, moi, je sais pas pour toi, Jonathan, mais je préfère avoir du temps pour moi quand je suis frais, quand je commence la journée le matin, qu'en fin de journée, quand j'ai couru après 6 rencontres. Ça, des fois, oh, là, mon cerveau est peut-être un petit peu moins efficace. Donc, je trouve vraiment que je suis tombé du bon côté ici au niveau des décalages horaires. Et par contre, le point à dire, c'est qu'à partir de 14h30, 15h, eh bien là, tu es en sprint de rencontre. Parce que là, bien entendu, maintenant, tu travailles avec 50% minimum moins de temps qu'avant pour faire ces rencontres-là. Et on le sait, on est des pros, les êtres humains, à booker des rencontres des fois pour des choses qu'on n'aurait peut-être pas tellement de besoin. Mais bon, on est tous comme ça, donc on a plein de rencontres. Puis des fois, on se demande pourquoi on a toutes ces rencontres-là. Eh bien, de 14h30, voire 15h jusqu'à 20h, 20h30 maximum à peu près, ça n'arrête pas. Des fois, il y a des petits breaks de 15-20 minutes entre chaque pour aller manger, mais ça, c'est sûr et certain qu'à partir de ce moment-là, je prends un bon café et là, je pars en sprint.
Donc, c'est un des enjeux, puis c'est ce que tu me parlais un peu dans les dernières semaines qui apportait cette question-là que j'avais pour toi aujourd'hui, parce que, un, comme tu dis, je pense qu'on est beaucoup plus efficace si on utilise notre temps de focus en one-to-one tôt le matin avec plein d'énergie. Mais comme tu dis, après ça, c'est back-à-back, meeting par-dessus meeting. Donc là, ça devient extrêmement énergie consuming. Quand tu termines ta journée, est-ce qu'il te reste un peu de gaz pour le côté personnel?
Ben, c'est ce que j'ai été obligé de faire. J'ai été obligé de changer un petit peu ma structure un peu de vie personnelle, dans le sens que, puis je l'avais déjà dit sur le podcast, mais j'étais quelqu'un qui me levait excessivement tôt, qui s'entraînait tôt le matin, qui commençait par la suite également à travailler tôt. Et bon, je terminais à la fin de la journée peut-être vers 19h, 19h15, et moi, je me couchais très tôt. Vers 21h, 21h30, j'étais au lit, puis je me reposais parce que le lendemain, je me réveillais à 4h30, je continuais cette routine-là. Tu auras compris que ça serait complètement stupide de reprendre cet horaire-là en Europe. Me lever à 4h30 le matin, il y aurait peut-être encore de mes collègues de Montréal qui sont en train de travailler, là. Donc,
tu pourrais faire des meetings le matin.
tu vois un peu. J'ai eu cette question-là à me dire, Antoine, tu peux pas garder ce même horaire-là. Ça fait strictement aucun sens. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me lever un petit peu plus tard le matin et bien entendu de me coucher un petit peu plus tard. Donc, à la fin de la journée, pour revenir à ta question, je me planifie pas d'activité. Je mange et là, tranquillement, je m'en vais au lit, mais je prends un peu plus de temps personnel le matin. Parce que là, ça me donne cette possibilité-là. Donc, c'est un peu un échange que j'ai fait entre ce que j'avais le soir. Maintenant, je l'ai le matin. Donc, il faut que tu sois ouvert, j'imagine, à un certain point, si tu fais des changements comme ça, à devoir moduler ton horaire. De toute façon, tu n'auras pas le choix parce que tu veux parler avec tes équipes. Tu veux être capable de collaborer avec les gens sur les deux continents. Donc, tu te dois d'avoir cette flexibilité-là. Et moi, je l'avais déjà planifié quand je faisais la structure de à quoi allaient ressembler mes horaires. Et en toute honnêteté, je le répète, je sens que j'ai gagné au change. Je sens que j'ai gagné au change ici. Je préfère beaucoup plus l'horaire que j'ai présentement à cause de ces fameux 3 à 5 heures le matin, chose que je n'avais pas avant. Et je crois que n'importe quel entrepreneur qui goûterait, qui bien entendu a une structure qui le permet, entreprise distribuée, moi je les appelle les entreprises qui travaillent dans le metaverse maintenant, donc une entreprise qui travaille dans le metaverse comme la mienne, bien si vous avez ça, c'est sûr et certain que vous risquez de voir beaucoup d'avantages, surtout au niveau de votre productivité. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Je sais pas si tu as des conseils pour les gens qui pensent peut-être le faire sur une plus petite échelle de temps, quelques semaines, quelques mois. Il y a peut-être des choses à prendre en compte ou s'assurer de réfléchir avant de faire ce test-là.
Bien sûr, ben je pense que la première chose qui est importante de se dire, c'est comprendre un peu notre structure opérationnelle. Est-ce qu'on est distribué? Est-ce qu'on n'est pas distribué au moment où est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on se doit de passer un certain temps au bureau? Parce que là, vous êtes plus juste travail de la maison. Là, vous êtes travail à des milliers de kilomètres de où se passent vos opérations principales. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale. Est-ce que la structure opérationnelle le permet? De plus en plus, la réponse est oui pour beaucoup, beaucoup d'organisations, mais bien entendu, on doit se poser des questions. Le deuxième point, je pense que c'est très orienté sur la culture d'entreprise. Il y a des cultures d'organisation qui se sont bâties autour du bureau et qui, depuis la fin un peu de la COVID, ces gens-là reviennent au bureau. Là, de plus en plus, on voit les gros joueurs mondiaux obliger sensiblement les gens à revenir au bureau. Et je pense, en toute honnêteté, que c'est une bonne chose. Tu vois, moi, je suis en Europe aujourd'hui, je travaille d'un bureau. Je n'aime pas travailler de chez moi personnellement. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez vous poser comme question. Est-ce que, au-delà d'avoir une culture qui est distribuée, ça fonctionne pour vous d'avoir des gens dans des endroits, dans des villes différentes? On avait déjà eu une discussion, toi et moi, Jonathan, sur le podcast. Mais ça, c'est important parce que là, vous êtes quand même une figure importante de votre organisation. Vous êtes la présidente ou le président. Si cette personne-là prend une décision de la sorte, vous aurez compris que ça va avoir une conséquence sur la perception de l'organisation pour l'ensemble des employés. Ils vont se dire, si lui peut le faire, je peux pas concevoir que je peux pas le faire. Donc, il faut tout de suite avoir cette réflexion-là aussi en tête sur l'impact de notre culture. Moi, je savais que ça n'aurait pas d'impact pour tout ce que je t'ai dit avant, qu'on était davantage une entreprise distribuée. Puis peut-être l'autre point, c'est un peu ce que j'ai dit, être très, très flexible au niveau de ses horaires, c'est-à-dire de comprendre que votre horaire que vous aviez au Canada, ben, force est d'admettre que vous allez devoir le modifier un petit peu si vous voulez être opérationnel en Europe. Là, vous allez avoir 6 heures de différence. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que ce n'est pas à 17 heures que vous allez terminer de travailler, ça ne fonctionnera pas parce qu'à 17 heures en Europe, il est 11 heures à Montréal. Donc, vous ne pouvez pas avoir simplement 2 bonnes heures de travail avec vos équipes. Ce n'est pas assez. Donc, il faut être vraiment prêt à être flexible, à moduler un petit peu ses horaires, à s'adapter à tout ça. Mais si vous êtes prêt à faire ça, moi, je vous le dis, la colonne des plus est plus élevée que la colonne des moins. Vous n'avez qu'à le tester sur 1 ou 2 semaines, peut-être un petit peu plus à cause que, juste pour se donner le temps d'apprivoiser le tout. Mais vous allez le voir, vous allez ressortir de là et vous allez avoir avancé des projets que ça faisait des années ou peut-être des mois que vous vous disiez que vous vouliez avancer, mais bon, vous ne trouviez pas le temps dans votre agenda.
Donc, beaucoup de préparation, beaucoup de définition des attentes avec l'équipe, avec soi-même, mais comme tu disais tantôt, avec aussi son conjoint ou sa conjointe de vie, parce que ça vient impacter le côté personnel derrière tout ça.
T'as pas le choix. Il faut que le contrat soit clair avec tes équipes, avec ton collègue, avec ta copine ou avec ton copain. T'as pas le choix parce que, c'est ça. Je veux dire, on n'a pas juste notre entreprise dans la vie, on a une réalité personnelle aussi. Il faut que tout le monde soit d'accord avec le contrat. Ça, on n'a pas le choix.
Bien intéressant. Merci du partage, Antoine. J'étais bien curieux que tu nous parles de ça parce que je te vois aller depuis plusieurs semaines en espérant que ça va inspirer des gens à peut-être tester ce mode de vie-là ou d'aller visiter un peu du pays ou du monde, je dirais, à travers tout ça.
Donc, c'est faisable. Parce que c'est un peu ça la beauté, je pense, qu'on a maintenant aujourd'hui. C'est que on a prouvé avec tout ce qui s'est déroulé dans les dernières années que plus souvent qu'autrement, c'est possible. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Peut-être pas, ça c'est propre à chaque personne qui a des entreprises. Dans l'idée, est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'ensemble de nos employés? Mais bon, je pense que ça vaut la peine de le tester. Ça vaut la peine aussi de pouvoir offrir cet avantage-là à des collègues et des employés. Moi, je le sais pertinemment que des gens chez nous qui ne travailleraient pas chez nous si ces avantages-là n'étaient pas mis de l'avant. Aussi simple que ça. Parce que c'est dans leur priorité quand ils regardent un emploi. Et je pense que d'un autre côté, il peut y avoir des gens que dans leur priorité, ils veulent s'assurer qu'il y ait des gens qui aient une culture de bureau, bref. Mais je crois que d'offrir cette possibilité-là peut également vous positionner comme un employeur attirant. Donc, regardez, analysez, mais surtout testez-le et n'ayez pas peur.
Bien intéressant. Puis je te lève mon chapeau, Antoine, toujours très audacieux dans tes mouvements, autant personnel que professionnel. Bravo, c'est très intéressant de te voir aller puis on peut tous s'inspirer un petit peu de comment tu es, Antoine. Merci du partage aujourd'hui.
Ben, je te remercie. Puis Joe, comme à l'habitude, des petites nouvelles en rafale pour notre audience. Qu'est-ce qui s'est passé de bon au niveau affaires cette semaine qu'on pourrait peut-être partager avec les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance?
Ben, absolument. J'ai reçu une petite nouvelle qui m'a quand même surpris puis je pense que ça va te surprendre également, Antoine. TikTok, la compagnie mère derrière TikTok, ByteDance, qui est une compagnie chinoise privée, donc ils ne sont pas en bourse, plus 30 % des revenus l'année passée pour maintenant être à 85 milliards de revenus et ils font 25 milliards de profits là-dessus. Antoine, toi qui es très proche de Facebook, de Meta, on commence à se rapprocher des chiffres, je pense, de Meta en termes de volume, profitabilité, et ça, c'était l'année passée. Là. Puis là, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'année passée, c'était 300 milliards de valeur, l'entreprise. Et avec la croissance qu'ils ont présentement, ça les placerait comme l'entreprise, le most valuable comme private company in the world, donc la compagnie privée qui vaut le plus à travers le monde au complet. Donc, c'est super, impressionnant. Également inquiétant un petit peu parce que on sait pas trop ce qui se passe au niveau sécurité. Ils commencent à se faire bannir un petit peu. Antoine, je pense que tu veux rajouter là-dessus, non?
Ben écoute, je pense que c'est peut-être juste important de le mentionner avec l'audience. On mettra le lien dans les notes de l'épisode de l'information où est-ce qu'on a pris le revenu. C'est un article de Bloomberg qui était sorti qui parlait de 80 milliards de revenus à l'année 2022. Et tu vois, je m'étais jamais posé la question et c'est juste avant le podcast, Jonathan, on en discutait un petit peu ensemble. Je suis allé faire des recherches et effectivement, ce chiffre-là est en ligne. Donc après, vous le regardez, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais partons de l'assomption que ce chiffre-là est vrai et qu'ils ont fait 80 milliards, 85 milliards pour l'année 2022. C'est excessivement impressionnant. 85 milliards, c'est le chiffre d'affaires de Meta en 2020. En 2022, si ma mémoire est bonne, Meta, c'est un petit peu plus que 120 milliards, si je crois bien. Je vais vous sortir ça à l'instant. Donc, les revenus de Meta en 2022, c'est 116 milliards. Donc, vous voyez, on n'a pas une très grosse différence. On a une différence pour l'année 2022 d'environ 30 milliards de dollars, peut-être un petit peu plus. Ce qui est beaucoup d'argent, vous me direz, mais il faut comprendre une chose, c'est que ByteDance, c'est une organisation qui a été fondée en 2012. Facebook a été fondée en 2004. Donc, il y a quand même 8 ans de différenciation de ces deux années-là. 8 ans, c'est énorme dans le domaine technologique, on le sait. Donc, je pense que la première chose à sortir de là, c'est wow! Je ne m'attendais pas autant de revenus publicitaires pour la simple et bonne raison, Jonathan, que je m'y connais quand même un peu dans tout ce qui est publicité en ligne. On a environ entre 40 et 50 millions de budget médias sur suggestion dans notre groupe. Et j'en avais parlé sur, je crois, l'autre podcast qu'on a, Social Selling. On a mis une escouade de notre équipe l'année dernière pour essayer de comprendre un petit peu comment la publicité sur TikTok fonctionnait. Et c'est une plateforme qui est intéressante, mais qui n'a pas la même maturité publicitaire qu'une plateforme comme Meta. C'est-à-dire qu'elle offre beaucoup de portée organique, c'est possible de générer de l'interaction quand même assez facilement comparativement aux autres plateformes, mais en termes de publicité, en termes de conversion directe, en termes de direct response marketing, on a toujours été très, très loin des résultats qu'on générait avec Meta. Est-ce que c'est nous qui avions la mauvaise approche? Peut-être. Mais bon, ce n'est pas une plateforme qu'on a entourée comme mature pour avoir des sommes significatives dans un mix média global. Donc, avec cette idée-là en tête, voir que tout de même l'organisation est capable de générer 85 milliards de dollars me surprend énormément. Et on le sait, c'est des dollars en publicité, donc on vend de l'espace. C'est des organisations qui ont des marges de profit excessivement hautes. Là, on n'a qu'à prendre les Google et les Facebook de ce monde quand ils étaient dans des périodes assez fastes de croissance. C'est des marges de profitabilité qui vont varier entre 35 et 40 %. Donc, c'est très élevé. Ça ne me surprend pas qu'ils soient capables de faire autant d'argent. La question maintenant à se poser est la suivante, et je crois que tu as bien soulevé le point. Vont-ils être capables de rester aux États-Unis, qui est un très, très gros marché, peut-être l'un des plus gros marchés pour eux? Ça, c'est une question qui va être répondue dans quelques mois, mais j'ai pas été tellement rassuré quand j'ai vu le CEO de TikTok parler devant tous les gens aux États-Unis qui leur posaient des questions, tous les politiciens, tous les juges américains qui lui posaient des questions. Vous irez regarder un petit peu ce qui s'est déroulé. Il est sorti de là, tu n'avais pas l'impression que TikTok allait s'en sortir. Là, maintenant, il y a une très, très grosse joute juridique qui est en coulisses, qui va essayer de faire en sorte peut-être même que la société Biden soit vendue à un groupe américain pour essayer de protéger un petit peu toutes ces données d'utilisateurs américains. Mais c'est un très gros travail. C'est énorme, là, c'est énorme la demande américaine pour cette organisation-là. Donc, je pense que c'est excessivement impressionnant. Les revenus qu'elle génère, c'est une plateforme formidable. TikTok, pas une plateforme qu'on a vu qui avait beaucoup de maturité publicitaire, mais c'est une plateforme qui, malheureusement, en ce moment, doit s'expliquer et qui, avec toute la tension qui monte en ce moment entre la Chine et les États-Unis, on n'a qu'à lire un peu les nouvelles pour s'en rendre compte, eh bien, je ne serais pas surpris qu'à un certain point, elle soit bannie, là.
Et je pense que c'était Oracle qui s'était proposé pour acheter ou du moins créer avec Biden la section US dans le temps.
Microsoft aussi était dans les discussions. Il y avait eu Oracle, il y avait eu Microsoft. Oracle avait d'ailleurs, je crois, que la meilleure offre de tout ça. Finalement, ça ne s'était pas fait. peut-être ça va se faire, mais c'est un très, très gros travail, là. Juste changer le tout d'un serveur à l'autre, c'est pas un... toi qui es en technologie, tu vas peut-être pouvoir nous aider là-dedans. C'est pas un, on pèse sur un bouton et tout fonctionne, là. C'est excessivement pointilleux et complexe d'arriver à ça. Et comment, par la suite, le gouvernement américain peut s'assurer que tout a été fait en bonne et due forme? Ça, c'est peut-être même une question qui se pose. C'est si la transaction se déroule, est-ce qu'on est capable de le vérifier que ça s'est bien fait? Et si on n'est pas capable de le vérifier, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on revient au point de départ. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts aux États-Unis qui, en ce moment, sont en train de se dire, avec ce qu'on a devant les yeux, puis avec les demandes du Sénat et de tout ce qui est demandé, il y a des excellentes chances qu'à la fin de la journée, peut-être que la plateforme, malheureusement, je tiens à le dire, malheureusement, soit obligée de sortir des États-Unis. Mais bon, ce sont des si. On verra comment la justice, comment ça va se dérouler avec la justice. Mais disons que ça augure pas excessivement bien pour eux.
Il y a effectivement une question d'éthique par rapport à TikTok parce que le gouvernement chinois pourrait influencer beaucoup de contenu qui est poussé dans différents pays. Donc, il peut y avoir de l'ingérence qui est faite, entre autres, au niveau politique.
Bien sûr.
Donc, faut faire. C'est surtout ça, je pense, qui fait peur un petit peu à beaucoup de gens, beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements. Ce pouvoir-là, maintenant, que la Chine a jusque dans nos mains, puis dans nos yeux, puis dans nos maisons. Via TikTok.
Surtout dans le contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel où est-ce que la désinformation sur les médias sociaux et Internet en général est devenue une ou peut-être la plus grande arme que les nations maintenant ont. Et là, quand tu possèdes une plateforme aussi puissante que ça, écoutez, je peux comprendre que des questions se posent au niveau des États-Unis. Je peux clairement comprendre que des questions se posent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des preuves? En toute honnêteté, j'ai pas regardé là-dessus, mais je peux comprendre que des questions se posent.
Mais de mon point de vue, la Chine détient présentement le plus gros média mondial d'information qui en réalité est TikTok, puis à la vitesse que ça l'avance, ça n'a pas de sens, là. Donc, c'est cette logique-là. Donc, question d'éthique à se poser. Si on transpose cette fameuse question d'éthique-là avec ChatGPT, petite nouvelle rapide, ça commence à bouger au niveau de certaines problématiques de diffamation. Imaginez-vous, si vous seriez un maire d'une ville en Australie appelée Hepburnshire, votre nom serait Brian Hood, et que quand on demande à ChatGPT « Qui êtes-vous? », ChatGPT répond que vous avez commis un vol envers la Banque de réserve australienne et que vous seriez un malhonnête et un malfaiteur alors que vous n'avez jamais commis ce crime-là, mais que plutôt vous étiez le lanceur d'alerte pour réussir à trouver qui avait commis ce crime-là. Eh bien, c'est ce qui arrive présentement avec cette fameuse personne-là, Brian Hood, présentement en Australie. ChatGPT a inventé des choses contre lui et là, il a levé à ce moment-là une action en cours contre OpenAI pour réussir à faire bouger ça. Ça va être intéressant de voir comment OpenAI va bouger parce que ça soulève beaucoup, beaucoup de questions d'éthique. Un cas similaire aux États-Unis contre Jonathan Turley, qui est un professeur d'université au niveau, justement, là, un law professor, donc un professeur de droit, que quand on tape son nom, il y a de l'information comme quoi qu'il aurait été accusé de crimes sexuels contre des élèves, alors qu'il n'a jamais commis ça. Et ChatGPT cite un article du Washington Post qui n'existe pas.
Mm.
Donc là, ça pose de sérieuses questions de qu'est-ce qui va arriver quand il y a justement des problématiques de diffamation comme ça. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ces deux cas-là envers OpenAI, mais ça va paver un petit peu la voie pour toutes les autres type d'intelligence artificielle.
Contre-vérifié. Moi, j'ai fait des tests avec ChatGPT dans les dernières semaines pour m'aider à construire mes questions pour les podcasts. Je demandais à ChatGPT de faire des recherches pour une invité spécifique pour l'histoire de son organisation. Et une fois sur deux, c'était des mauvaises informations qui ressortaient, des mauvaises dates, tout ça. Donc, je pense qu'on est très emballé. La technologie est excitante et d'une puissance absolue. Mais on serait fou de lui faire confiance sans contre-vérifier. Je pense que c'est le point en ce moment que les gens doivent comprendre, c'est que peu importe ce qu'on dit, peu importe la puissance de tout ça, elle fait des erreurs. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. C'est important de contre-vérifier les réponses qui ressortent de tout ça.
Et le gros problème à l'heure actuelle, c'est que quand il sort un fait ou qu'il pense que c'est un fait, on n'a pas nécessairement de source en arrière de ça, donc il faut lui demander. Là, ce qu'on a vu, c'est que l'intégration de ChatGPT-4 dans Bing, présentement, il donne les sources dans ces mentions. Donc, il y a moyen d'aller voir c'est qui le site en arrière d'où l'information elle est abreuvée. Donc, ça devient un petit peu plus vérifiable à ce moment-là. Fort à parier qu'il va y avoir probablement un mouvement ou une pression qui est mise sur OpenAI et les autres intelligences artificielles pour maintenant commencer à vraiment montrer les sources de cette information-là. Sinon, ça va devenir trop problématique.
Effectivement.
Dernière petite nouvelle pour autre chose à rajouter, Antoine, pour ça?
Non, vas-y, c'est très bien.
Dernière petite nouvelle aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent qui ont été impactés professionnellement ou personnellement par le manque de puces électroniques dans leur quotidien, donc soit qu'il y avait des retards dans la livraison de leur véhicule, soit qu'il y avait des problématiques dans l'équipement qu'ils avaient besoin pour leur entreprise ou fournir à leurs clients, eh bien, c'est terminé. Samsung Electronics a décidé de ralentir sa production de puces parce qu'ils ont de l'excédent énorme de production présentement, à un point que leur profit a baissé de 96% dans le dernier trimestre. Wow. Donc, ils ont vraiment amélioré de beaucoup la production, mais maintenant, ils sont plus que capables de répondre à la demande mondiale. Donc, fort à parier qu'on aura pu heureusement, tous ces problématiques-là. Fait que fort à parier qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui n'ont pas réussi à acheter un véhicule à cause qu'il manquait de puces électroniques. Mais dans notre quotidien, il y a beaucoup de retard sur du matériel commandé par rapport à ça. Donc, c'est terminé. Bonne nouvelle. Et ça démontre un petit peu également aussi l'économie mondiale, qu'est-ce qui se passe présentement. C'est un mélange. Ils ont augmenté leur capacité, mais que la demande a atteint un niveau qui est en diminution présentement là, dans les derniers trimestres.
Toujours des bonnes nouvelles à partager avec notre audience, Jonathan. On va d'ailleurs continuer ce fameux format des discussions d'affaires. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je laisse filer?
C'est complet pour aujourd'hui, Antoine. Merci beaucoup.
Fantastique. Donc, merci encore, Jonathan. Merci aux gens qui nous écoutent. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.